Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Pierre de Bréritzen nous parle d'Arthur Koestler. Médecin, Pierre de Bréritzen donne un portrait de cet homme au parcours impressionnant. Arthur Koestler, né en 1905, journaliste pour un journal conservateur à Berlin, il a donné son adhésion au communisme en 1931, puis découvrant et comprenant un des premiers la nature du stalinisme, il a rédigé le premier ouvrage dénonçant les procès de Moscou en 1938. En 1940, paraît son livre « Darkness at Noon », traduit sous le titre « Le zéro et l'infini ». C'est le récit du procès et de l'exécution d'un haut responsable. Il préfigure l'aveu d'Arthur London.
Parti pris, Pierre de Bréritzen, Arthur Koestler ou les ruptures créatrices. Pierre de Bréritzen est responsable du service de neuropsychologie de l'hôpital des enfants malades à Paris, mais il est aussi écrivain, essayiste et entre autres choses grand spécialiste d'Arthur Koestler, sur lequel il vient de diriger un travail collectif qui a été publié dans un cahier de l'herbe. Mon éducation a toujours eu l'air, dit Koestler dans un interview, de procéder par choc. À chacun de ces chocs, je répondais par un bond mental, une soudaine mutation de conscience. Je ne trouve pas trace dans mon passé de maturation paisible. Pierre de Bréritzen, quel a été dans la vie d'Arthur Koestler le premier choc, la première grande rupture?
Une rupture volontaire, d'ailleurs. C'est en 1925, lorsqu'il est un sujet très brillant, à 20 ans, à l'école polytechnique de Vienne, avec une formation scientifique, qu'il va avoir une carrière d'ingénieur absolument toute tracée, et que un soir, dans un moment à la Dostoïevski, avec un illuminé qui passait la soirée avec lui, il lui prouve qu'il est libre, car l'autre dit tout est déterminé, etc. Il lui prouve qu'il est libre en déchirant et en brûlant son livret universitaire, ce qui signifiait pratiquement l'abandon de sa carrière.
Et le lendemain, il a assumé.
Alors le lendemain,
ce geste.
Il est très honteux, n'est-ce pas? Mais il est au lit pratiquement le lendemain, tout à fait déprimé après cette exaltation. Mais cependant, il y a évidemment un dessein qui est de rejoindre, c'est à ce moment-là son idée, idéologie régnante en lui-même, c'est d'aller rejoindre le sionisme.
Il y a donc à ce moment-là une expérience sioniste qui pour lui pourrait être le retour aux sources, pourtant c'est un échec.
C'est un échec parce que, comme il l'explique avec beaucoup d'humour, il n'était absolument pas fait pour faire pousser des oranges et gratter la terre, et que c'est ça qu'il voulait faire. Mais bêcher vraiment au bout d'une heure, c'était intolérable. Et les sionistes, les vrais de l'époque, se sont très vite rendus compte que ce n'était pas une bonne recrue, et ils l'ont évincé.
Dans cette première rupture, on a beaucoup dit qu'il y avait une réaction contre une enfance assez frustrante et frustrée.
Il a eu une enfance de petit bonhomme, d'abord unique, extrêmement anxieux. L'anxiété est quelque chose de natif qu'il tenait de sa mère.
Vous voulez dire que c'est héréditaire, l'anxiété?
Oh, c'est héritable, en tout cas, extraordinairement hérité. C'était un petit écorché à chaque instant. Ajouter à ça qu'il a une intelligence exceptionnelle, mais qu'en même temps, il était certainement très bébé du point de vue du développement affectif.
Et un état que sa mère
entretenait. Donc très vulnérable.
Sa mère entretenait cette situation?
Oui, elle l'entretenait par, par une surprotection en même temps qu'une culpabilisation. Enfin, nous connaissons bien ces choses-là. Mais je crois que ce n'est pas suffisant pour expliquer de tels à-coups, de tels coups de barre dans le destin de Koestler.
Mais ce qui frappe peut-être dans cette première période de la vie de Koestler, dans cette opposition entre une intelligence exceptionnelle et cette espèce
d'immaturité affective, qui va durer jusqu'à 35 ans, vous savez.
C'est que ça ne débouche pas, du moins à cette époque-là, sur une création précise.
Il est trop tôt. Il est absolument trop tôt. Il n'a pas de véritable sujet. Mais il écrit.
Est-ce que vous voulez dire qu'il est replié sur lui-même, qu'il n'arrive pas à sortir de
lui-même ? Non, je crois qu'au contraire, il est trop dispersé. Et il va l'être très vite, terriblement, puisqu'il va tomber, excusez-moi l'expression, dans le journalisme. Où il fera une carrière époustouflante, puisqu'à 25 ou 26 ans, il sera le plus connu des journalistes scientifiques d'Europe et sera le seul correspondant dans ce voyage quasi mythique qu'était celui du Graf Zeppelin en 1930.
Mais à l'époque, journalisme et science, ça n'allait pas très bien ensemble.
Si, car il a inventé la forme qui convenait à la vulgarisation scientifique. C'est lui qui a été voir le prince de Breuil avant que celui-ci ne sache qu'il avait le prix Nobel et a eu 4 heures de conversation fascinante avec lui et a réussi à expliquer à ses contemporains ce qu'était la mécanique ondulatoire.
Pierre de Bréry-Zen, 1931, deuxième choc dans la vie d'Arthur Koestler, il adhère au Parti communiste. Là,
oui.
La rupture est terrible.
La rupture, elle est en tout cas socialement capitale, puisqu'il est un très grand journaliste, gagnant très bien sa vie dans un journal qu'il faut appeler conservateur à ce moment-là, à Berlin. Et d'un autre côté, il est gagné par une autre idéologie qui est ô combien prégnante et qui est le communisme à une époque où monte, comme vous le savez, un singulier péril en Allemagne et dont il est, lui, juif, particulièrement menacé.
C'est cela, à l'époque, il y a un double contexte.
Oui,
d'une part, la crise économique qui démarre et la montée du nazisme.
Et alors donc, il va faire ça dans un aveuglement qui va durer très, très longtemps, enfin plusieurs années. Et il explique bien les choses quand on en parle encore actuellement, très simplement. C'était le seul recours. Les démocraties étaient inertes. C'était le seul recours. Et donc, bataille de rue, petite bagarre, on joue à la petite guerre dans les rues de Berlin, jusqu'à l'avènement du nazisme officiel. Et à ce moment-là, Koestler est parti.
Car il faut dire qu'à ce moment-là, le Parti communiste allemand ne se distinguait pas particulièrement par ses capacités intellectuelles. C'était l'un des moins solides intellectuellement d'Europe.
Oui, cependant, il a de très bons souvenirs à cette époque. Mais je répète, il s'en va et il va passer 2 années en URSS. Il a beaucoup de mal à en rentrer. Et il aura beaucoup de mal à sortir.
Il a dit après qu'il avait dû oublier à chaque fois ce qu'il avait vu là-bas pour se sentir véritablement
communiste. C'est ce qu'il appelle la trieuse. Il avait une trieuse mentale qui lui permettait de ne voir dans ce qui l'entourait que ce qui était à peu près favorable et que tout ce qui était, hélas, dramatique, mon Dieu, il l'oubliait. C'était scotomisé pour lui.
En 1937, il est en Espagne.
Il va même d'abord, il est en France, n'est-ce pas ? D'abord, il est en France en 1935. Et là, il meurt pratiquement de ne meurt pas de faim, mais il n'a pas un sou, il est dans une condition absolument épouvantable.
Et là, il est journaliste.
Oh non, il n'est même plus journaliste à ce moment-là. Il est petit agent du Comintern, petit correspondant du communisme international.
Donc il est,
engagé.
Franchement, il est engagé ou sinon
tout à fait.
Presque un espion soviétique.
Soviétique, je ne pourrais pas vous dire si c'est exactement soviétique. Enfin, l'administration du Comintern. Il y a de bons amis. La plupart de ceux qui l'entouraient, d'ailleurs, ont été liquidés ensuite.
Après, il va en Espagne. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est, à ce moment-là, soupçonné d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Et pourtant, il va se jeter dans la gueule du loup à Malaga, ce qui lui vaut de passer...
Dans un premier temps, il va en Espagne comme en se jouant une aventure extraordinaire... avec la carte d'un journaliste d'un journal plus que conservateur de Hongrie, sa patrie d'origine. Il fait la connaissance au Portugal du frère de Franco. On sable le... pas le champagne, mais les vins généreux. Et puis, on boit à la victoire de Franco. Enfin, il joue le jeu avec une extraordinaire maîtrise. Et puis, il va chez Franco, à Séville. Il voit Queipo de Lano, et qui lui explique que, bien entendu, les Allemands sont là, que les Italiens sont là, que la non-intervention, c'est une farce, etc. Il prend toutes ses notes. Il est très bien vu. C'est un ami du frère de Franco. Et puis, il va boire un verre dans l'hôtel où sont les aviateurs. Et les tankistes. Et là, il tombe sur un type qui dit « Mais ça, c'est Kessler, c'est le communiste Kessler. » C'est un homme qui l'avait connu à Berlin. Et à ce moment-là, il a exactement un quart d'heure pour ficher le camp et il traverse la frontière.
Il la traverse, mais
la frontière. Mais alors, ce qui est absolument aberrant, c'est que quelques mois plus tard, revenu en Espagne, après avoir dénoncé tout ce qu'il a vu, il est à Malaga, il sait que la ville va tomber, on lui a dit que la ville sera tombée dans 48 heures, et se croyant protégé par l'amitié du consul anglais, du vieux consul anglais avec lequel il habite, il a l'audace ou la désespérance de rester. C'est encore ce qu'il appelle un des bienfaits de la déraison, un de ces ruptures de pont, de vaisseaux brûlés. Il a peut-être même le sourd désir de mourir.
C'est ça, justement. C'est la question que je voulais vous poser à ce propos-là, parce qu'il va passer...
Sourd désir de mourir, car il est très déprimé, car il vient de vivre à Madrid des moments épouvantables, se rendant compte que l'Espagne gouvernementale est sur la pente fâcheuse, dramatique, se rendant compte que ses amis communistes venant de l'Est sont rappelés pour être fusillés. Nous sommes déjà là dans les premières purges staliniennes. Bref, il a un grand dégoût de tout. Et tout ça va se trouver repris et ravivé par cette ascèse extraordinaire que vont être les 100 jours dans une cellule de condamnés à mort.
Il s'est jeté dans la gueule du loup, mais alors est-ce qu'il n'y a pas véritablement là chez lui le goût de la catastrophe ? Cette espèce de passion de la mort. Au fond, il a déjà tenté 3 fois de se suicider dans sa vie.
Il a... déjà tenté 2 fois de se suicider, oui, pour des raisons d'ailleurs assez frivoles, presque littéraires, si je puis dire. Là, vous savez, alors nous abordons un sujet qui est extrêmement difficile, et en psychiatre, je ne peux pas ne pas vous dire tout de suite les causes du suicide, c'est très compliqué. Dans la famille de Kessler, il y a un suicide. On peut se demander s'il n'est pas, dans une certaine mesure, un dépressif constitutionnel.
On en revient à l'hérédité.
Nous aimons beaucoup dire que lorsqu'il y a tentative de suicide ou suicide, que le thème n'est pas la cause. Alors on peut chercher des thèmes, mais dire que c'est vraiment la cause, c'est plus difficile.
Est-ce que c'est dans les prisons du fascisme espagnol qu'il a senti la nécessité d'une rupture avec le communisme ?
D'une façon, le mot inconscient, je le déteste, d'une façon qui n'est pas consciente, d'une façon qui n'est pas verbalisée, d'une façon qui n'est pas avouée à soi-même, mais d'une façon sourde, sûrement.
Mais pourquoi ?
Parce qu'il a vu de tout près ce qu'était qu'une liquidation d'un être humain. Alors vous me direz, bon, bah c'est le lot de tous ceux qui ont eu des aventures dramatiques, certes, mais il l'a vécu, lui, et il ne l'a pas accepté comme tel. Et il s'est souvenu de cette merveilleuse phrase des conquérants, « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie ». Et il a, pour la première fois, conçu cette notion que le zéro ou l'infini, introduit dans n'importe quelle équation d'un écolier, vient tout brouiller. Et que la vie humaine, c'est à la fois zéro et c'est à la fois l'infini.
En 1945, il publie justement en France le zéro et l'infini.
Oui, mais il le publie en 1945 en France, mais il l'écrit après le Testament espagnol, juste après le Testament espagnol, qui est un livre un petit peu fardé, car il est encore authentiquement, enfin je veux dire, officiellement communiste. Et il habite l'Angleterre, et à ce moment-là, pour quelques mois, et il se rend compte que lui, alors qu'il était coupable, d'avoir été espionné là-bas, et qu'après tout, il méritait ce qui lui arrivait, il a été sauvé. Il a été sauvé par sa femme et par une espèce de grande levée bouclier de toute la presse internationale. On a joué le jeu, la fiction, c'était un journaliste, etc. Bon. Franco s'incline et rend contre un autre otage, Kessler. Kessler donc bénéficie d'une chance inouïe.
Que n'aura pas sa famille.
Que n'aura pas sa famille dans les fours crématoires et que n'auront pas non plus ses amis communistes venant de l'Est qui sont rappelés et fusillés dans les purges staliniennes. Et il dit à ce moment-là, je me rendis compte que j'avais contracté une dette immense vis-à-vis de la vérité.
Qui ne l'a pas empêché ensuite de réagir comme un défroqué. Il le dira lui-même, j'étais dans l'état d'esprit d'un curé défroqué. Il va être complètement seul à ce moment-là. Il va rester complètement seul, en particulier parmi les intellectuels français.
Ça, c'est 38. Lorsqu'il dit à une réunion de communistes, deux ou trois adages, je n'ai pas le temps de les retrouver, ils sont superbes, dont une phrase de Thomas Mann qui dit « Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui voudrait calmer » ou quelque chose comme ça. Et alors à ce moment-là, on se rend compte qu'il n'est plus communiste, mais on ne le dit pas encore, et il est tout seul. Et indiscutablement, il a le sentiment du curé défroqué.
Et en 45, il le sera encore, tout seul. Peut-être
oui,
encore plus.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre solitude? Il m'a répondu, quand on est un écrivain, on écrit un livre. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Le Zéro à l'infini. Car il a écrit en 38-39, Le Zéro à l'infini.
Il a besoin de l'adversité?
Peut-être. Alors, Le Zéro à l'infini, nous n'allons pas en parler. C'est un problème tellement... Enfin, je veux dire, c'est un sujet tellement immense que c'est celui de la fin des moyens, enfin, que vous retrouvez dans Spartacus et aussi dans Croisade sans croix.
Pierre de Bréritzen, 1950, Arthur Koestler, l'homme qui s'était identifié d'une certaine manière avec la guerre froide, abandonne toute politique, récuse toute idéologie. Troisième grande rupture. Pourquoi?
Parce que il a beaucoup réfléchi. Il est revenu à ses premières amours. Les premières amours, c'est la formation scientifique. Il s'est rendu compte de l'avènement de l'atomisme. Il s'est rendu compte des progrès considérables de la neurophysiologie contemporaine. Il se lie avec des savants, en particulier avec Paul MacLean, qui est un grand neurophysiologiste de Bethesda. Et il s'aperçoit que, mon Dieu, les affaires humaines demandent d'être éclairées par des lumières beaucoup plus importantes et beaucoup plus savantes que celles des idéologies et de la politique.
Mais il y a une désillusion de la politique chez lui.
À total. Il considère que, à un moment donné, maintenant, c'est bon. Bien sûr, ce sont des petites recettes qu'on est bien nécessaire de vivre avec elles, mais qu'elles ne méritent plus, de la part d'esprits comme le sien, un engagement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit, par exemple, quand nous parlons de névrose, de libido politique, c'est pour exprimer que l'instinct politique est lui aussi irrationnel. On ne devient pas sioniste ou marxiste par déduction logique, mais parce qu'on est préparé, qu'on est prêt à embrasser une cause.
Totalement. J'ajouterais même qu'on devient freudien de la même façon.
C'est une vérité que très peu d'intellectuels sont prêts à accepter, ou du
moins
une
idée. En France.
Pourquoi en France?
Parce qu'en France, l'intellectuel, et Kessler leur en veut beaucoup pour ça, l'intellectuel est particulièrement prévenu contre la connaissance scientifique. La connaissance scientifique, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de connaître, c'est quelque chose qui le gêne, et c'est quelque chose qu'il laisse volontiers dans un tiroir.
Autre réaction de...
Ce que n'était pas un Huxley, si vous voulez. Ça, c'est très important. Et Kessler va beaucoup plus loin. Il dit que les littérateurs français sont presque des racistes contre la connaissance scientifique. Car quand on pénètre dans la connaissance scientifique, on est forcément obligé d'abandonner beaucoup d'idéologies, sinon toutes.
Pas pour en retrouver d'autres?
Pour retrouver de mauvais bourgeons de théories scientifiques qui auraient tendance à devenir des idéologies, ça, sûrement.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Oh, je pense au behaviorisme. Je pense au néo-darwinisme, qui sont des théories un petit peu trop en pointe et qui veulent nous faire croire que le comportement humain est le fait d'une multitude de réactions et des stimuli, comme cela existe à tous les étages, animal, le rat, et tout ce que vous voudrez. Je crois que ça, c'est une vision fausse. Le behaviorisme apporte des choses intéressantes, mais lorsqu'il s'érige en doctrine globalisante, à ce moment-là, ça devient une erreur. Le néo-darwinisme aussi. Je crois que penser que nous sommes venus des reptiles uniquement par un système de mutation et de sélection naturelle, je crois que c'est vraiment une superstition.
Donc, lorsque Koestler revient à la science, il n'abandonne pas, au fond, cette espèce
l'esprit
de
critique.
Méthode.
L'esprit critique.
Ça le mènera très loin, par exemple, contre ce qu'il appelle les réductionnistes.
Oui, les réductionnistes, ce sont...
Qu'est-ce que c'est qu'un réductionniste?
Un réductionniste, c'est quelqu'un qui... au fond, c'est un janséniste de la connaissance scientifique, au départ.
Tiens, c'est drôle, parce que lorsque nous parlions tout à l'heure d'hommes politiques et d'intellectuels politiques, j'allais parler des jansénistes politiques.
C'est un janséniste dans la mesure où ce sont des gens très austères qui ne croient vraiment qu'à la connaissance scientifique. Ils sont donc rivés aux faits scientifiques qu'ils ont observés et qui sont toutes valables. Par exemple, qu'il y a une réponse à un stimulus, ou que la vie, c'est-à-dire les substances vivantes, sont faites d'acides aminés. Bon, ça, ce sont des réalités. Mais rivés à ces connaissances, ils ne vont pas essayer d'imaginer davantage et ils vont éventuellement construire sur ces seules connaissances, c'est-à-dire en réduisant le tout à ses parties.
Par exemple, est-ce que pour Arthur Koestler, Jacques Monod est un réductionniste?
Oui, il le dit, puisque nous avons une longue conversation là-dessus. Mais il y a une querelle entre les deux hommes. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, ce serait trop compliqué dans ce court instant.
Donc une attitude critique à l'égard des idées, mais aussi à l'égard des hommes, puisqu'il y a 2 ans, il a publié un livre qui est un véritable pamphlet contre ce qu'il appelle les princes de la connaissance, transformés en touristes internationaux de la contestation étoiles.
Oui, les call girls. Les call girls n'étant pas ce qu'on pense, mais ces gens qu'on invite dans des congrès. Indiscutablement, les call girls, ça existe beaucoup. C'est une petite charge, c'est pas très méchant, mais ce qui est beaucoup plus grave dans les call girls, c'est que précisément... ils sont assemblés, ces grands savants, pour essayer de maîtriser le drame humain mondial qui va se passer, qui est une troisième guerre, et que chacun apporte sa recette, chacun dans sa spécialité, et que, bien entendu, c'est le babel total, et que tout le monde s'empoigne, et que personne ne trouve de solution.
Une attitude fort peu scientifique.
Fort peu scientifique. D'ailleurs, il dit volontiers que les scientifiques s'opposent quelquefois avec la frivolité, excusez-moi, des critiques littéraires.
Lorsque Koestler donc se lance dans la recherche scientifique, il adopte donc toute une série de principes, déjà les principes de MacLean sur l'idée des deux cerveaux. Est-ce que cette recherche sur les deux cerveaux ne correspond pas au fond exactement à la mentalité, au tempérament de Koestler? On retrouve cette idée d'opposition.
Vous savez, cette opposition, elle est concrétisée maintenant par les faits neurophysiologiques, mais elle a existé de tout temps.
Qu'est-ce que c'est que les deux cerveaux?
Je crois qu'il faudrait qu'on revienne pour
très,
ça.
Très simplement, en gros.
Il y a un ancien cerveau qui a 200 millions d'années et qui est celui de nos instincts les plus primaires, la faim, la soif, la sexualité, etc., l'agressivité. Et puis il y a un bel ordinateur qui nous a été livré il y a 250 000 ans, à nous, Homo sapiens, et qui nous donne tous les moyens de notre intelligence.
Et lequel domine?
Koestler croit hélas que c'est le reptilien. Mais en dupant le savant et celui qui a le bel ordinateur,
et en s'en servant.
C'est ainsi, par exemple, l'exemple typique, c'est que le refus viscéral de la mort amène au délire d'une création d'immortalité. C'est pour lui le type même de la confusion entre les deux étages.
Pierre de Bréritzen, est-ce que d'une certaine manière, Arthur Koestler n'est pas un Malraux qui mettrait en pratique l'existentialisme de Sartre?
Non, parce que... Alors, je crois qu'il rirait beaucoup si vous entendez, parce que existentialiste, ça ne veut plus dire grand-chose pour lui. Je crois qu'il est vraiment complètement rompu avec toute espèce de système philosophique. Et ça, si vous voulez, sa conception principale, elle est scientifique, maintenant. Et les faits neurophysiologiques dont nous venons de parler, c'est pour lui la base de départ. Mais pas de système idéologique à partir de ça.
Pour lui, à quoi correspond l'idée de fidélité?
À quoi?
Pour Arthur Koestler, l'homme des ruptures.
À l'ami, aux amis, aux femmes, aux...
Par rapport à lui-même.
Je crois qu'il a une fidélité considérable à deux choses qui sont premièrement la recherche permanente de la vérité et deuxièmement un espoir. C'est un pessimiste mais plein d'espoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 juillet 1975. This land is your land. For you.